I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous demandez si le web était mieux avant. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 536. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets. Aujourd'hui, oui, bah j'ai la forme, hein, comme tous les vendredis, mais encore aujourd'hui, encore un petit peu plus, parce que c'est mon anniversaire, et bah oui, aujourd'hui, je fête mes 44 ans, et quand je regarde un petit peu, je suis pas très loin, mais vraiment pas très loin, d'avoir 25 ans de création de site internet, de web derrière moi, et je me dis, oh là 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 là, je suis un vieux dinosaure, et aujourd'hui j'avais prévu un épisode, vous savez, qui était de dire qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque où j'ai commencé à créer mon premier site, etc. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était moins bien, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, non, ça marche pas ce truc-là, parce que effectivement, rien n'était pareil, c'est la préhistoire, là, vraiment la préhistoire. En fait, quand on fait le listing des choses, déjà, on n'était pas beaucoup d'internautes. Moi-même, quand j'ai dit oui à mon premier site internet, pour créer mon premier site internet, alors je vais vous raconter l'anecdote, mais franchement, j'étais à l'UT, UT de gestion, on a un professeur un jour sur un projet qui nous dit « Bah voilà, j'ai vu qu'en informatique, vous amusiez plus que les autres, vous étiez en avance, au lieu de vous ennuyer, est-ce que ça vous dirait pas de faire le site internet de l'UT, du département GEA, hein, j'étais en gestion, du département de gestion de l'UT ?» On lui a dit, bah oui, d'accord, nous sommes d'accord, ok, ça marche. Et puis après, il nous a dit, vous avez une question? On a dit, bah oui, c'est quoi Internet, ça, hein? C'est quoi un site Internet? Parce qu'à l'époque, je ne m'étais jamais connecté à Internet. À l'époque, on n'avait pas Internet sur les ordinateurs de l'université, hein. Enfin, franchement, il n'y avait aucun ordinateur qui avait Internet. D'ailleurs, même ce premier site qui a été fait n'a jamais été mis en ligne parce que le responsable informatique n'a jamais voulu le mettre en ligne. Il pensait dans sa tête qu'Internet, c'était trop dangereux pour ses serveurs, etc. Et donc, par rapport à cette époque-là, où quand on allait prendre une clé pour aller se connecter, qu'on entendait le modem, etc., on allait sur, déjà, Yahoo, qui commençait à être présent. Mais Yahoo, il y avait quoi? Il y avait quelques milliers de sites qui étaient référencés. J'ai fait une recherche tout à l'heure, c'était marrant. Dans mes recherches que j'ai faites, je regarde, je suis allé, tiens, je vais voir dans la catégorie Ronin de Yahoo, mais en 1996, remonté dans archive.org, remonté en 96, regardez, quels étaient les sites qui parlaient de running, par exemple, en 1996? Eh ben, il n'y en avait pas. La catégorie, c'était athlétisme, on va dire, grosso modo athlétisme. Il y avait seulement 3 pages d'athlètes, et notamment Michael Johnson, hein, qui fut champion du monde, champion olympique, tout ce qu'on veut, etc. Mais on n'a pas, enfin, vous voyez, le fait d'avoir une page perso à son nom, de pouvoir dire, je vais faire du personal branding, je vais pouvoir créer un nom de domaine avec mon nom, pouvoir le déposer, pour avoir un site, etc., c'est un truc qui n'existait pas. Et en plus, quand je regarde un petit peu, je me dis, bon, bah, ce premier site, c'était vraiment un site de bidouilleur. C'est-à-dire que, à l'époque, on a acheté un bouquin, HTML2 ou HTML3.0, quelque chose comme ça. Et puis, on a pris le bloc-notes de nos ordinateurs Windows. Et puis, on a commencé à taper du code avec mes camarades de classe. On était 3, un petit groupe de 3 comme ça. On a commencé à taper du code. HTML, body, head et compagnie, des petites balises comme ça, etc. Les pages étaient très simples, hein, sur le plan de l'affichage, mais c'était très 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 compliqué à monter. J'ai toujours dit un truc, moi quand j'ai commencé à faire mes premiers stages en agence web, on vendait une page une journée à peu près, grosso modo. Après on s'est mis à les vendre à l'heure, hein, une page une heure, et maintenant je dis, franchement ça n'a aucun sens, cette notion-là n'a plus aucun sens. Maintenant les pages sont beaucoup plus compliquées, sont beaucoup plus lourdes. On fait des trucs qui étaient inimaginables, quoi, les feuilles de style, les JavaScript, les animations, les trucs comme ça. Moi je me rappelle le jour où Ajax est arrivé. Ajax est la capacité de recharger un bout de la page de manière asynchrone. On charge la page, on fait un appui sur un bouton, ça charge la page directement, il y a des choses qui chargent sans recharger toute la page. Ce jour-là, c'était un truc, mais une révolution, mais comme tout a été une révolution, on s'est beaucoup moqué de Flash, mais Flash, c'était une révolution, pouvoir animer des choses, pouvoir faire des petits jeux, pouvoir programmer des animations, c'est une révolution, et pouvoir mettre de la vidéo sur Internet, mais rendez-vous compte, YouTube, Dailymotion, ont été inventés qu'en 2005, c'est-à-dire que pendant des années, on s'est dit, comment on peut faire mettre pour une vidéo? Alors déjà, fallait la produire. Déjà, le matériel pour mettre des caméras, pour numériser les images, etc. Déjà, c'était un sacré truc. Et ensuite, même si vous arriviez à faire cette étape-là, même si vous arriviez à avoir cette étape-là, il y avait un truc qui était de dire, comment je fais pour que quelqu'un arrive à la télécharger avec la vitesse d'internet de l'époque, parce qu'il faut se rappeler qu'avant la DSL c'était lent, et puis même maintenant la DSL il vous trouvera super lent, le premier ADSL probablement on le trouverait super lent, maintenant qu'on a la fibre etc, la 4G, hein, et puis je parle même pas de la 5G qui va arriver. Mais la 4G en elle-même, quand on regarde la vitesse de la 4G sur son téléphone, c'est gigantesque. Ah, ce téléphone, ce smartphone, lui non plus n'existait pas. Faire un site mobile, c'était un truc qui ne pouvait pas se concevoir, puisque de toute façon, le mobile n'existait pas. La notion même d'avoir un téléphone, d'avoir du mobile, etc., d'avoir un téléphone qui soit capable d'aller sur Internet n'existait pas. Enfin, en France, on avait quelque chose quand même qui ressemblait, qui s'appelait le Minitel. On a beaucoup critiqué Minitel. On a beaucoup dit que le Minitel, franchement, on était des arriérés, les Français, etc., avec le Minitel. Mais en fait, on était avancés. C'est juste qu'il y a un moment donné, on s'arrête en route. C'est-à-dire que le Minitel est un truc qui était génial, et quand vous regardez plein de fortunes d'Internet de maintenant, ont été créés par des gens qui ont fait des services Minitel. Hein, bien sûr, il y a le cas de Zaviniel, etc., qui est très connu, mais j'ai toujours une pensée aussi pour Sébastien Pissavi, qui a créé jeuxvideo.com, hein, et qui était parti au départ d'un service Minitel. Et si vous regardez son parcours, sa biographie, ce qu'il a écrit, c'est que à une époque, le Minitel, qui permettait de financer des services, vous savez, les fameux 3615 qui étaient monétisés, etc., eh ben, vous vendiez du contenu en ligne par le biais de 3615 et des services comme ça, il y avait des tarifs différents, mais bon, c'est vrai que le 3615 était le plus connu. Et donc, ça permettait de financer les sites web qui étaient naissants. Mais les sites web qui étaient naissants, quand on dit naissant, c'était vraiment, on faisait du HTML, on n'avait pas trop de base de données. Moi, j'ai connu une époque aussi où la base de données, c'était une espèce de grosse base de données qu'on mettait en ligne directement. Il y avait des scripts dans tous les sens sous Windows pour les faire afficher, etc. Quand PHP est arrivé, ce fut une révolution, les bases MySQL, etc. Mais tout ça, on l'a vu venir. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais le listing de tout ça, je me dis, bon, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas beaucoup de sites internet. On aurait pu se dire, c'était assez simple finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites internet pour être sur, se référencer sur Yahoo, c'était facile, se référencer sur les ancêtres de Google, c'était facile. Alta Vista, vous mettiez 10 fois le mot Auvergne dans une page, vous sortiez en premier quand quelqu'un tapait le mot Auvergne. Bon, après, bien sûr, il y a un mec qui l'a metté 15 fois, et donc il fallait remettre 20 fois le mot Auvergne pour arriver à premier sur Auvergne. Mais on va dire que c'était extrêmement basique dans la logique, on pouvait dire que tout était plus simple. Mais en fait, quand on y regarde, on n'avait pas la puissance qu'on a maintenant, on n'avait pas les outils qu'on a maintenant. On n'avait pas notamment cette puissance de discussion. Parce qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux. On dit, ouais, faut s'enlever des réseaux sociaux, faut s'enlever les algorithmes et tout, c'est le mal, etc. Mais est-ce qu'on a eu un jour un outil qui nous permet de contacter, de discuter avec autant de personnes dans le monde et d'aller discuter avec des gens qui nous étaient tout simplement inaccessibles jusqu'à maintenant? C'est-à-dire que maintenant, vous voyez un créateur, quelqu'un qui vous inspire. Mais je vais même vous dire un truc. Prenez le plus gros des créateurs qui vous inspirent. Même pas français, américain, etc. Le plus gros, celui le plus gros, etc. Il y a toujours une chance sur Twitter que si vous lui envoyez un message, il puisse vous répondre. Toujours. Alors bien sûr, certains le feront pas, certains ne vous répondent pas directement. Certains vont vous snober volontairement ou involontairement, parce que si vous recevez des milliers de messages dans une journée, c'est sûr que vous pouvez pas vous répondre. Un jour, j'ai envoyé un message à Rich Roll, que j'adore, hein, que je classe dans ma catégorie des mentors, et à un moment, je me suis dit, bon, j'espère qu'il va me répondre, mais non, c'est sûr qu'il a sûrement des milliers de messages quand vous êtes suivi par 300 000, 400 000, 500 000 personnes, que vous avez une entreprise, deux entreprises, que vous avez des beaucoup de gens comme ça autour de vous qui gravitent, etc. C'est sûr que c'est pas possible qu'un influenceur qui est suivi par des milliers et des milliers de personnes, des centaines de milliers et des millions de personnes, puisse systématiquement vous répondre. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, qui casse beaucoup le mythe de l'influenceur et l'amour que les gens ont des influenceurs. C'est-à-dire que vous pouvez penser, vous dites, oh, je l'adore, je suis cet influenceur. Vous, en tant que personne qui suit un influenceur, vous connaissez tout de lui. Vous connaissez tout de lui. Mais lui, l'influenceur, dans l'autre sens, il ne connaît rien de vous, puisqu'il ne sait même pas que vous existez. Je veux dire que vous pouvez regarder toutes les vidéos de Casinestat, vous connaîtrez la vie de Casinestat, en tout cas ce qu'il en montre. Mais quand vous croisez Casinestat, vous allez croiser Casinestat tel que vous le connaissez, mais lui, il vous connaît pas. Il sait pas que vous regardez une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Vous pouvez lui raconter, mais il le sait pas. Et puis, il va croiser des milliers de personnes qui vont lui raconter ça. Donc, ce que je veux dire par là aussi, c'est que, bien entendu, il faut pas en vouloir. Faut pas en vouloir à ces gens-là s'ils répondent pas, etc. Et il faut aussi insister. C'est-à-dire que si vous voulez les inviter sur votre podcast, des gens très connus, faut les envoyer un message, deux messages, trois messages, quatre messages, cinq messages. J'ai invité certaines personnalités sur le podcast. Je voulais les interviewer. Il y en avait un, je l'avais dit, pour l'épisode 500, voilà, pour l'épisode 500, je voulais avoir Major Mouvement. Et il m'avait dit, oui, non, enfin, j'ai pas le temps, etc. Au début, il a pas répondu, après, il a dit, j'ai pas le temps, etc. Après, je l'ai invité sur mon autre podcast, Kilomètre 42, et il m'a dit oui, et puis depuis, j'essaye de le réinviter. Et je sais qu'il est dans surchargé parce qu'il a plein de messages. Mais vous savez ce qu'il y a? Ben, il faudra retenter, une fois, deux fois, trois fois. Et un jour, oui, 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 je me dis, je l'aurai un jour, forcément, un jour, ça va marcher, je vais y arriver. Et en fait, ce que je veux dire par là, dans cette histoire-là, c'est que on a une capacité de création désormais qui n'a jamais été connue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que hier, je regardais des discussions dans des groupes, des gens, ils disent, voilà, j'ai une idée. Comme ça, j'ai une idée. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais commencer à créer un blog, je vais commencer à créer une page avec une inscription newsletter. J'ai envoyé ça, un message à quelques contacts. Et puis, j'ai quelques contacts qui s'inscrivent, je vais pouvoir commencer à discuter avec eux. On va pouvoir commencer à construire un petit bout de communauté pour monter un projet. Est-ce que vous avez dans la tête, est-ce que vous avez à aller demander à vos parents, à vos grands-parents, à aller demander à des oncles, des tatas, etc., qui a eu une idée peut-être à une époque, en se disant, bah tiens, j'aurais bien aimé faire ça et ça, quelle était la difficulté à une époque pour créer ne serait-ce qu'une publication que quelques personnes vont lire? Je veux dire quelques personnes. Rappelez-vous dans vos jeunes années si vous avez fait partie de la génération fanzine. Vous savez, fallait faisait un petit magazine, on dessinait, etc. Ensuite, on l'imprimait, enfin on le dessinait, on allait en faire des photocopies, puis c'était vendu dans la salle du lycée, dans la cour du lycée, dans les salles de classe, etc. Vous avez connu cette époque-là, il y a eu des fanzines sur le rock, sur la musique, sur le BD, sur plein de choses, etc. Maintenant, le même travail que vous faites, au lieu d'être diffusé à 10, 15, 100 personnes dans la salle du lieu, dans le lycée, alors il y a des fanzines qui ont été tirées à plus d'exemplaires que ça, bien sûr, mais au lieu de le diffuser à quelques personnes, vous pouvez le diffuser à des milliers de personnes, juste comme ça, par la force d'Internet, par le compte Instagram, par un Twitter, par un Facebook, etc. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai fait mon bilan comme ça de ces 25 ans, je regarde le truc, et je me dis, c'est sûr que c'était pas la même époque. C'est sûr qu'à l'époque, on pouvait dire, oui, référencer un site, c'était facile. Oui, il y avait moins de concurrence. Oui, il y avait des espaces qui étaient entièrement vierges. Entièrement vierges. Il y avait personne dessus. Puisque personne, en fait, il n'existait rien au départ. Mais il n'existait rien aussi pour créer. C'est-à-dire que, au départ, pour créer du contenu, il faut être un vrai bidouilleur. Mais quand j'ai un vrai bidouilleur, c'est-à-dire que même pour avoir l'idée de créer un nom de domaine et d'avoir son premier espace sur lequel on pouvait créer son site, il fallait être talentueux au niveau de... je dis pas talentueux, être un as, etc., avoir un talent inné. Je dis que il fallait avoir cette capacité à comprendre qu'il fallait aller prendre un truc. Et c'était... Soit vous étiez dans l'informatique et c'était relativement facile, parce que vous aviez peut-être accès, et encore qu'à une époque, hein, on parle, il y avait quelques serveurs seulement qui étaient connectés, puis il y en a eu un petit peu plus. Il faut remercier des gens, les Miga, les Multimania, les Altern et compagnie, qui ont développé l'hébergement de pages personnelles aussi, etc. Mais je veux dire qu'il fallait avoir un certain talent, en tout cas, pour être capable déjà d'avoir un nom de domaine et avoir pour pouvoir faire un site dessus que les gens puissent aller. Et ensuite, tout ça, c'est démocratisé. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on a une tendance à taper sur Internet qui favorise les fake news, qui va bouger la démocratie, etc. Ça, bien sûr, c'est un truc qui n'a pas été prévu. Au départ, c'est ce qu'on dit toujours, Internet et notamment les réseaux de discussion ont été inventés par un groupe de blancs, bobos, San Francisco, la Silicon Valley, toute cette zone-là, où ils se ressemblaient tous un petit peu, où ils discutaient tous ensemble, où finalement, c'était une communauté. Et les premières communautés, c'est vrai, quand on regarde la communauté The Well, qui était une communauté numérique et qui venait du mouvement hippie à l'origine, quand on regarde un petit peu, c'est vrai qu'ils se ressemblaient tous, donc c'était une première communauté. Mais maintenant, cette communauté, si on prend la taille de l'époque, elle correspondrait à une micro-communauté, une petite niche. Il y a des influenceurs qui ont des communautés qui sont beaucoup plus grosses. Et donc, c'est logique que l'on ait du mal à gérer ce passage-là, tout simplement parce qu'on n'a jamais fait discuter autant de monde ensemble. Et le mythe d'Internet du village mondial que tout le monde va discuter ensemble, c'est un mythe qui ne peut pas tenir, soyons honnêtes. On ne peut pas tous discuter ensemble, on n'a pas tous les mêmes avis. On ne supporte pas le bruit, le brouhaha du monde entier. Donc ça, ce n'est pas possible, et c'est ça qui va devoir se faire évoluer, qui va devoir être régulé. Si vous avez regardé sur Netflix Comme un écran de fumée ou The Social Dilemma, vous avez vu un petit peu la problématique que ça pose. Mais la problématique, c'est pas Internet. La problématique, ce sont les outils qui sont construits sur Internet, et comment certains, notamment dans les réseaux sociaux, par les algorithmes, et notamment par le business tel qu'il est construit actuellement, pousse dans un système qui est tout simplement, qui n'est pas bon pour la société, mais qui est bon pour leur argent à eux. C'est une logique comme ça. C'est pour ça que ceux qui sont contre les régulations des GAFA et qui pensent que les GAFA vont se réguler d'eux-mêmes, se mettent un doigt dans l'œil réel, parce que ce n'est pas possible, parce que de toute façon, ils sont possédés par des patrons, des actionnaires, que ces actionnaires, ils veulent de l'argent. Et donc, finalement, on peut dire que le fait que ça soit Trump ou n'importe lequel, mais le fait que ça polarise un petit peu les choses, cette polarisation qui fait que bah, y a des publicitaires qui en mettent de l'argent, qui vont pouvoir segmenter plus facilement, etc., tout ce qui est décrit là-dedans, fait l'argent, fait du business de ces entreprises-là, mais aussi de leurs actionnaires. Et ces actionnaires, bah, souvent, ce sont des fonds de pension, donc ce sont des personnes qui payent leur retraite avec, ce sont des gens qui font du boursicotage, ce sont des gens qui investissent, etc. Et donc, c'est un monde complet qui est basé autour de ça. Mais ça, c'est une partie du problème. Mais en fait, dans l'autre côté, c'est on regarde tout ce que ça nous a apporté. Moi, quand je regarde un petit peu les choses, quand je regarde mon environnement, je suis super heureux. Ce matin, j'ai reçu des messages de bon anniversaire sur du WhatsApp, sur du Facebook, sur du LinkedIn, etc., par des gens que je n'aurais jamais rencontrés avant. Et je vous remercie. Hein, j'ai des pensées, alors on va dire Hermano, que j'avais déjà reçu, Médiane, et des gens comme ça, qui se reconnaîtront, qui m'ont envoyé ce matin des messages, et je me dis, mais ces gens-là, ils sont éloignés géographiquement de moi. Éloignés géographiquement, mais on est proches, parce que on peut avoir une passion commune, on peut avoir une envie commune, on peut avoir une passion commune, on peut avoir une vision du monde commune. Une vision du monde que je vous ai partagée par exemple, c'est de dire que moi, mon truc, c'est de penser qu'on est mieux quand on crée du contenu, qu'on peut... Ça peut être compliqué, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que ça peut être compliqué, mais n'oubliez pas que vous le faites pour avoir une meilleure vie derrière. C'est-à-dire que cette notion de dire « je vais créer du contenu », je vais avoir une chaîne YouTube, je vais avoir un blog, je veux faire connaître mon entreprise sur Internet par le biais de ces outils-là. C'est sûr que ça peut paraître compliqué, mais je peux vous dire que vous avez entre les mains un pouvoir que vous n'aviez pas il y a quelques années. C'est-à-dire que si vous aviez vu Internet, bien sûr, au départ, il y a 25 ans, vous pouvez dire « waouh, c'est un truc immense, je vais pouvoir aller faire tout ce que je veux dessus parce qu'il n'y a personne ». Et vous pouvez vous dire « c'était mieux avant parce que quand on s'est lancé dessus », il y avait personne, c'était plus facile pour eux pour se lancer dessus. Mais en fait, ce qu'il faut pas minimiser, c'était les difficultés. C'est-à-dire que quand on regarde maintenant, qu'on dit oui, il y a des blogueurs, ça fait 20 ans qu'ils bloguent, c'était plus facile à leur époque d'avoir de l'audience parce qu'il y a 20 ans, ils bloguaient. Mais ce qu'on oublie, c'est que certains ont développé leur blog de leurs mains. Mon premier blog à moi, je l'ai programmé à la main. Et donc, à un moment donné, ils ont pu rentrer sur ce marché-là, soit parce qu'ils avaient des compétences techniques, soit parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui a des compétences techniques, soit parce qu'ils avaient de l'argent pour le faire, soit parce qu'ils ont été un peu précurseurs sur un outil qui a démarré et ils ont eu un petit peu de chance. Ça, c'est vrai. Mais en fait, les outils que vous avez entre les mains n'existaient pas il y a 10 ans ou 15 ans. On a commencé à faire connaître son contenu. Je disais, tiens, dans ma liste, je regardais un petit peu les choses, je disais, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ma liste? Et je me disais, dans ma liste, on n'avait pas d'espace de discussion. On n'avait pas vraiment d'espace de discussion. Alors, bien sûr, il y avait les forums en ligne, alors les BBS, ensuite on a eu l'IRC, etc. Mais dessus, moi, je me rappelle, on discutait beaucoup, on échangeait beaucoup, mais vous n'aviez pas à connaître beaucoup de contenu comme ça. Vous n'aviez pas du partage de sites internet. Vous montriez pas tant de sites internet que ça. Bien sûr, il y en avait qui étaient partagés. Mais la puissance que l'on a maintenant de faire connaître son site internet, de faire connaître son contenu, de faire connaître une vidéo, de faire connaître un podcast, elle est immense, elle est incroyable. Alors, c'est sûr, on peut se dire, il y a plein de monde. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont découragés en se disant, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Mais en fait, c'est pas vrai. Tout n'a pas été dit, tout n'a pas été fait. Si vous prenez les grandes thématiques, que vous descendez ensuite dans les niches, il y a plein de niches qui sont libres, elles sont libres en permanence. Il y en a qui se libèrent, il y en a qui sont là parce qu'il y en a certains qui le font d'une manière totalement différente de vous. Vous pouvez rentrer dans des niches où il y a déjà quelqu'un parce que vous allez le faire d'une manière un petit peu différente, d'une manière plus spécialisée, d'une manière avec votre parcours à vous. Avec une vision totalement différente des choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne venez pas me dire « oui, c'est trop compliqué, les outils sont trop compliqués ». Je vous ai dit non. Moi, je sais qu'il y a des outils qui sont compliqués à appréhender pour un novice, pour un débutant. Mais en fait, cette complexité n'est rien par rapport à la complexité qui fut une époque. Alors moi, je vous l'ai dit, les outils, pensez en tant qu'outils, je vous fais des tutos, je vous fais des formations dans lesquelles j'explique tous les pas, etc. Mais en fait, il n'y a rien d'impossible pour vous. Je veux dire que votre smartphone vous permet de faire de la vidéo, faire du podcast, faire de la photo. Vous pouvez publier ça très facilement sans même avoir d'ordinateur. Juste avec un smartphone, vous pouvez tout faire. Vous pouvez gérer, lancer des formations comme ça. Vous pouvez tout faire. Bien entendu, il y a une prise en main technique des outils. Mais ces outils-là sont quand même d'une simplicité et d'une puissance qui est tout à fait remarquable. Demain, vous prenez une feuille, vous dites « je vais lancer une formation sur tel sujet pour apprendre ce que c'est mon cœur de métier ». Par exemple, je sais pas, vous êtes... J'ai eu le cas l'autre jour, on parlait avec un enseignant et dire, ben voilà, un enseignant, ça fait 10 ans qu'il enseigne un truc, il a son cœur de métier, mais il a aussi tout ce qui va autour. Et ben, cette connaissance-là, s'il veut la mettre demain dans une formation en ligne et la vendre, il peut le faire en une journée. En une journée, ça peut être fait. En une journée, on peut prendre un abonnement sur une plateforme de formation, on peut démarrer une caméra, même une webcam, on peut tourner quelques trucs, on peut filmer son écran, on peut montrer des astuces, etc. On peut donner des conseils sans trop réfléchir parce que c'est notre cœur de savoir, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on sait dire, c'est ce qu'on raconte tous les jours aux gens autour de nous. Donc ça, on sait le faire, c'est assez facile. On est capable de s'inscrire sur des plateformes, des Kuneo que moi j'utilise, des Podia, des choses comme ça. On est capable de le faire. On est capable d'envoyer un mail à ses connaissances. On est capable de demander à nos connaissances de relayer ça. Si on a des amis sur Facebook, on est capable de partager ça sur Facebook, de leur demander de partager ça. On est capable de construire ça en quelques heures. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est que cette puissance-là, elle n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a l'impression maintenant que, bien sûr, c'est assourdissant le bruit. Bien sûr, il y a plein de choses autour de nous. Bien sûr que il y a des trucs, ça nous dérange, bien sûr que ça nous dérange, il y a des trucs, bien sûr qu'on voudrait pas voir passer ces messages racistes, ces harcèlements numériques qu'on peut voir, bien sûr qu'on comprend pas comment un gars qui a été, par exemple les fans d'un gars qui a été condamné par la justice puisse encore le défendre alors que tout est contre lui, que même la justice le reconnaît coupable, bien sûr qu'on peut pas comprendre ça, bien sûr que c'est révoltant par certains aspects, mais il faut pas oublier quand même que nous avons la puissance incroyable, une puissance incroyable entre les mains, et que cette puissance nous permet de créer notre propre monde à nous, dans lequel nous allons pouvoir partager du contenu, du savoir, aider les autres, les amener vers nous, les attirer vers nous, les aider aussi. Et quand, avec cette aide, avec cette entraide, avec cette construction commune, on est capable de créer une meilleure vie pour nous, et aussi pour eux, qu'en créant une meilleure vie pour eux, en les aidant à améliorer leur vie à eux, on améliore notre vie à nous, et qu'on est capable de le faire avec des outils qui sont extrêmement simples. Donc, je vous le dis, franchement, je vous le dis, oui, la technique peut être des fois gênante, oui, il y a des questions techniques qui se posent, oui, vous pouvez avoir des questions techniques, mais on est capable de passer par-dessus parce qu'il n'y a rien d'insurmontable. Et si vous regardiez à Internet à une époque, il y avait des choses qui étaient vraiment, vraiment au sens insurmontable, ou au cas où je vous dis, si vous vouliez mettre en ligne une vidéo, il y a 20 ans de ça, c'était un truc qui était insurmontable, quasiment infaisable et vraiment très compliqué parce que c'était réservé vraiment à une petite élite. Maintenant, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de mettre en ligne un podcast sans aucune connaissance. Vous êtes capable de mettre en ligne un blog sans aucune connaissance. Et en plus que ce blog soit beau, je peux vous garantir que par rapport à mon premier site, n'importe quel blog qui sort maintenant, il est plus beau, plus ergonomique, plus rapide, plus complet, il a plus de fonctionnalités. C'est valable aussi sur Instagram. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez sur Instagram. C'est extrêmement facile. Mais bien sûr, ça demande toujours quelque chose qui est important, c'est de vouloir le faire, de vous engager à le faire, de vous lancer dans cette bataille-là, de vous dire oui, je vais le faire, et oui, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est, j'allais dire un sacerdoce. Quand je dis ça, vraiment, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste de dire, je vais faire une vidéo, je vais regarder ce qui se passe. Si vous faites une vidéo, si vous faites deux vidéos, bien sûr, personne ne la verra, mais bien sûr que personne ne la verra. C'est pour ça que je vous dis, ne passez pas trop de temps à faire cette première vidéo. Concentrez-vous sur un contenu minimum viable. C'est-à-dire, contenu minimum viable, c'est pas d'avoir une vidéo parfaite et d'attendre d'avoir la vidéo parfaite pour la mettre sur YouTube. Non, c'est d'avoir une première vidéo qui exprime votre message, qui exprime qui vous êtes, que vous commencez à partager, que vous commencez à construire une audience, et au fur et à mesure que vous en faites, vous allez l'améliorer, vous allez avoir de l'audience. Et donc, au fur et à mesure que vous aurez de plus en plus de gens qui vous voient, vous allez aussi améliorer votre qualité. Mais plutôt que d'essayer de partir de la qualité optimale au départ, que personne ne verra jamais parce que quand vous commencez, vous êtes à zéro, le contenu minimum viable vous permet de dire, je commence avec un contenu qui est compréhensible, qui est lisible, qui exprime le fond de ce que je veux expliquer, et petit à petit, je vais progresser, et je vais construire mon audience, et je vais faire ça. Et c'est cette richesse-là que je vous partage toutes les semaines sur votre coach web, que je vous partage tous les jours dans mes mails, vous faites votrecoachweb.com/email tous les jours dans les mails, que je vous partage aussi sur Patreon dans mes trucs privés, mes podcasts privés, vous voyez, j'ai perdu le nom, mes podcasts privés du lundi, vous venez, faites votrecoachweb.com/Patreon ou Patreon, vous cherchez Bertrand Soulier dessus, vous allez me trouver aussi, il y aura aucun problème pour soutenir le podcast, vous donnez à partir de 1 euro par mois et vous avez accès à mon podcast privé. Vous voyez, ça, il y a des choses que je vous partage en plus, cet état d'esprit. Je vous ai parlé de la newsletter, je vous ai parlé de la chaîne YouTube, je vous ai parlé du podcast, je vous ai parlé du blog, faites votrecoachweb.com, vous retrouvez tout dessus. Mais ce que je veux vous partager dessus, c'est vraiment de vous dire, oui, c'est possible. Bien entendu, ce n'est pas sans difficulté. Mais la plupart des difficultés, elles sont pas que techniques, elles sont pas techniques. Et elles sont beaucoup dans notre tête. Elles sont beaucoup dans les barrières que nous avons montées dans notre tête, dans notre cerveau, qui se sont montées, qui ont été construites par notre éducation et qui disent, ce n'est pas pour nous. Et surtout quand vous avez mon âge, moi j'ai 44 ans aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans ma génération qui disent ce n'est pas pour nous. On a été élevé dans cette génération de dire il faut faire des études, avoir un boulot, une famille, une maison, et puis ensuite on va aller jusqu'à la retraite et créer une entreprise, c'est pas pour nous. Quand vous êtes élevé par des parents qui avaient un boulot pratiquement à vie, parce que c'était le cas, par même fonctionnaire, donc vraiment un boulot à vie, cette logique-là de dire « je suis capable de créer mon propre emploi », elle n'est pas si simple que ça. C'est normal qu'elle soit pas si simple que ça. Et vous aviez pas les outils à l'époque. Moi, quand j'étais gamin, je pouvais pas imaginer qu'on aurait un jour un outil qui permette de créer ça. C'était beaucoup plus compliqué, l'accès à l'information était plus compliqué. On disait que l'information était un pouvoir parce qu'il était limité. Mais maintenant, le pouvoir, c'est pas d'avoir accès à l'information, tout le monde a accès à l'information. Le pouvoir, c'est quoi ? C'est de partager soi-même de l'information qui va aider les gens. Et c'est pour ça que je dis qu'on a le pouvoir sur Internet quand on crée du contenu. Parce que le savoir, il est partout autour de nous. Du savoir de qualité, bien sûr, il y en a moins. Et du savoir de qualité qui nous aide vraiment, il y en a encore moins. Et quand on est dans cette recherche-là, on est bien content de trouver quelqu'un qui partage ça. Et si vous avez à le partager, forcément, si vous avez quelque chose à partager qui est utile pour quelqu'un d'autre dans ce monde, vous verrez que ce sera utile pour plus d'une personne, pour 2, pour 3, pour 10, pour 500, pour 1000. Et vous n'avez pas besoin qu'il soit utile pour des millions de personnes. Vous n'avez pas besoin d'être un influenceur pour en vivre. Vous avez besoin de trouver une petite communauté de super fans. Je reviens pas sur la théorie des 1000 vrais fans. Est-ce qu'elle est vraie, pas vraie ou pas? On s'en moque de ça. C'est la réalité, en fait. C'est qu'il y a des gens qui vivent très bien, même avec 100 personnes sur leur newsletter ou 200 personnes sur leur newsletter. Il y a des influenceurs qui ont 100 000 ou 200 000 followers qui vivent moins bien qu'eux. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est aussi les offres que vous mettez, c'est aussi comment vous les aidez. C'est sûr que, soyons honnêtes, un influenceur qui fait juste rire les gens, eh ben c'est plus compliqué dans certains cas de lui acheter certains produits en dehors des produits qui sont purs fan club, j'ai envie de dire, plutôt que quelqu'un qui va vendre de la formation, qui va aider les gens en partageant son savoir, en les aidant à faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas qu'un business sur Internet, il y a plusieurs types d'activités. Et vous devez faire non pas celle qui semble être comme ça, une voie tracée, parce qu'elle n'existe pas, la voie tracée. On a chacun d'entre nous une capacité à tracer notre propre voie, à condition qu'on se mette dedans, qu'on se jette dedans, et bien sûr, qu'on se dise « j'ai le temps ». Je prends le temps de le faire, de monter étape par étape, parce que ça va pas se faire en une journée, ça va pas se faire en un mois, en une semaine. Soyons honnêtes, il va falloir du temps pour que ça se construise, mais quand ensuite la machine se lance, vous allez découvrir vraiment un autre monde, vous allez vraiment découvrir autre chose. Et vraiment, hein, quand je regarde, vous voyez, quand ce matin je faisais mon bilan des trucs, j'avais marqué des choses comme ça, je disais, ah, sur quoi on discutait, les ICQ et tout, est-ce que c'était mieux, c'était... Franchement, on peut pas dire ça, quoi. Il y avait rien de mieux avant, hein, sur, en tout cas, dans la capacité de créer sur Internet. Bien sûr, il y avait pas toutes ces news qui circulaient, mais on n'avait pas ces outils-là, on n'avait pas ces réseaux-là. Et on peut dire, bah oui, bah Twitter et tout, c'est pénible, il y a une mauvaise ambiance, mais sur Twitter, vous êtes capable de balancer un message à des milliers de personnes en quelques clics. Vous êtes capable de balancer de l'information sur Instagram en quelques clics. Vous êtes capable de partager la vidéo. Et ça, c'est quand même une puissance qui est redoutable. À condition que vous passiez du statut de je consomme de l'information à je produis de l'information. De consommateur à producteur. Bien entendu, ça, c'est la difficulté. Et cette difficulté-là, maintenant, elle est plus technique. Elle est dans la tête. Elle est dans, est-ce que je veux le faire? Vous êtes capable de le faire. C'est la vraie question, c'est est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous avez la volonté de le faire? Est-ce que vous avez l'envie de le faire? Et est-ce que vous allez enfin vous engager là-dedans? Je dis enfin, parce que j'en connais un sacré paquet des gens là comme ça, qui écoutent, qui regardent hein, tous les conseils et qui ne se lancent jamais. Et qui me disent, ou qui le disent pas, mais qui le disent sur les réseaux sociaux, qui le disent dans les mails, qui le disent à droite à gauche quand j'en reçois les trucs. Je rêve de faire ça, je rêve de faire ça, je rêve. Ça fait des années que je rêve de faire ça. Moi aussi, pendant des années, au bout d'un, j'ai rêvé, je voulais faire ça. Et puis on voit les opportunités passer. Vous remplissez votre armoire à regrets. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, eh ben, il va falloir passer à l'action. Et moi, c'est ce que je vais vous aider à faire. Je vous ai donné toutes les adresses juste maintenant. Donc voilà, moi, vous savez où me trouver. Tous les vendredis, on se retrouve sur le podcast. On se retrouve toutes les semaines sur YouTube. On se retrouve dans mes mails pratiquement tous les jours. Vous avez toutes les adresses. Je vous les mets tout en lien de l'épisode et de la vidéo. Eh bien oui, parce que je filme aussi en vidéo. Ça, je vous l'ai pas dit. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous dis... passez une très 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 belle journée. Quant à moi, aujourd'hui, comme c'est mon anniversaire, et bien pour moi, c'est un jour férié. Et donc, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, et moi, un très bon jour férié. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.